Docteur Arruscia Arruda est au bout du fil. Docteur Arruscia, bonsoir. Arruda,
bonsoir.
Pardon. Le prétexte de l'entrevue puis de vos sorties aujourd'hui, c'est la campagne de vaccination pour l'influenza. Je pensais qu'avec toutes les mesures de distanciation, la grippe, c'était pas un problème cette année.
Écoutez, c'est vrai que les mesures de distanciation ont eu un effet sur la grippe, même au printemps. Dès qu'on a mis ça en place, ça l'a baissé de beaucoup. C'est vrai que dans l'hémisphère sud, alors que là-bas, c'est l'hiver, puis nous, on est en été ici, la circulation du virus d'influenza a été très minimale. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que si on applique ces mesures-là, on va peut-être être en mesure, à mon avis, de diminuer l'impact de la grippe au Québec. Cependant, le virus de la grippe étant ce qu'il est, c'est-à-dire un petit coquin, on ne peut pas se permettre, à notre avis, de laisser les personnes qui sont à risque de développer des complications de la grippe de pas avoir accès à un vaccin au Québec.
OK. Qui devrait se faire vacciner, Dr Arruda, cette année?
Bon, il faut comprendre que le programme de la grippe du Québec vise non pas à éliminer la grippe, mais à s'assurer que les gens qui vont à l'hôpital et qui vont en mourir puissent bénéficier d'une protection. C'est le meilleur moyen pour, un, les personnes qui ont en haut de 75 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques de tout âge. À partir de 6 mois, il y a de plein de gens qui ont des maladies chroniques, par exemple, qui ont du diabète, qui ont des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques qui nécessitent des soins, qui ont des maladies rénales, des gens qui sont immunosupprimés. Ces personnes-là, malheureusement, elles sont actives, puis elles se considèrent pas souvent à risque, mais c'est eux qu'on retrouve le plus souvent à l'hôpital. Les femmes enceintes, lors de leur deuxième ou troisième trimestre, pour pas avoir un accouchement prématuré, puis bien entendu, toutes les femmes enceintes qui ont ces conditions-là aussi. En plus, les gens qui vivent avec ces personnes-là, là, pour les protéger, on peut leur offrir la vaccination gratuite dans notre cadre de notre programme.
OK, Dr Arruda, je vous ramène sur le terrain de la pandémie. On va s'éloigner de la grippe. Il y a beaucoup de gens qui me parlent, c'est dans l'air du temps, là, des problèmes de santé mentale qui sont causés par le semi-confinement, par toutes les privations qui sont entraînées par la pandémie. Comme directeur national de la santé publique, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il est urgent que le gouvernement du Québec fasse pour alléger ces problèmes-là qu'on est en train de développer?
Il faut comprendre que je pense qu'à chaque fois qu'on met en place des phénomènes de confinement ou de diminution de la socialisation, il faut offrir des éléments compensatoires. Premièrement, il faut comprendre que c'est pas seulement des situations en lien avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui a un problème de santé mentale au départ ou quelqu'un qui a déjà certains problèmes, ça peut probablement être accentué. Mais il y a toute une série de stress que peuvent vivre les gens, les jeunes, les autres, pour lesquels il y aura sûrement moyen, je voudrais, d'intervenir. Bon, là, actuellement, on analyse toujours la question du bénéfice pour la crise, pour ne pas se retrouver dans une situation où le système de santé est complètement infonctionnel. Vous avez vu ce qui se passe en France actuellement, ils vont être obligés de reconfiner. Nous, notre objectif, on a donné un gros coup de barre pour essayer d'aplatir les choses, mais c'est, à mon avis, de repenser à chaque fois qu'on fait une intervention les impacts potentiels et essayer de les minimiser par différentes stratégies. Je pense que c'est vraiment très important.
Mais docteur Arruda, c'est quoi le conseil que vous donnez aux gens qui nous écoutent là, puis qui sont en train là, de d'étouffer? Parce que essentiellement, ce qu'on peut faire, c'est si on va au travail, c'est d'aller au travail, de revenir à la maison, c'est tout. Il y a des gens qui commencent à se sentir encabanés, là.
Je comprends très bien, puis c'est pour ça que je vous dis que dans les fêtes, il faut vraiment qu'on essaie de maintenir les choses au plus bas, descendre encore, pour peut-être se mettre à réouvrir de certains éléments qui, à mon avis, sont essentiels au niveau des personnes. On est en train de penser à une stratégie. Puis là, les gens nous disent tout le temps aussi, les gens ne savent pas quoi s'en tenir, donc ça les stresse, ils n'ont pas de moyens de contrôle, etc. On travaille très fortement. Vous savez, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer d'ici Noël. Mais on va essayer de travailler pour donner de l'espoir, entre guillemets, ou de donner des choses qui pourront se réouvrir et permettre une certaine socialisation qui ne sera pas comme avant, en toute liberté, mais qui va permettre de garder un équilibre entre les effets pervers de d'isolement qu'on fait autour des personnes et une capacité de maintenir le système de soins.
Il y a une auditrice qui m'a écrit et qui m'a demandé de vous poser la question. La question est bien simple. La stratégie à long terme, c'est quoi? Parce que là, je voyais aux États-Unis le docteur Fauci qui disait, écoutez, pour l'année 2021, là, on va être dans les mesures de distanciation encore, probablement jusqu'en 2022. Écoutez, c'est pas à vous que je vais dire ça, mais je pense que le monde va virer fou si ça dure encore un an, là.
Oui, écoutez, si vous savez, ces conséquences-là, on les vit nous autres aussi, puis on est très, très conscients de ça. Bon, porter le masque jusqu'en 2022, à la limite, c'est une chose, mais fermer la société complètement, ça, c'en est une autre. Je pense que la solution, malheureusement, c'est le vaccin. Mais le vaccin, c'est pas parce qu'on va l'avoir, disons qu'on l'aurait en janvier, il n'y aura pas des doses pour toute la planète du jour au lendemain. Fait qu'il faut falloir vraiment qu'on arrive à redéfinir un nouvel équilibre. On peut pas empêcher les enfants d'aller à l'école, etc. Même les milieux scolaires, les garderies, c'est souvent des éléments protecteurs pour certaines clientèles les plus vulnérables. Hein? Parce que, vous savez, moi, ça a un effet sur moi, mais c'est incomparable. Moi, j'ai un travail, je continue à travailler.
Vous êtes dans l'action, vous.
Ouais. Je suis en action, je suis encore très, très occupé. C'est pas du tout la même affaire. Quelqu'un qui peut plus retravailler, qui perd son travail, quelqu'un qui est seul à la maison, des couples qui peuvent se divorcer parce que la tension est trop forte, des enfants battus. Tout ça, il faut falloir qu'on le regarde en conséquence. Il faut falloir qu'on rééquilibre, à mon avis, ça. On peut pas tolérer ça, parce qu'en plus, les gens ne nous suivront plus. Okay. C'est l'autre élément. Si on ne laisse pas un peu de lest, les gens ne nous suivront plus.
Autre question pour vous, là, qui m'a été envoyée par une auditrice, c'est la question des vacances scolaires pour Noël, Dr Arruda. Semble-t-il qu'il y a un scénario de vacances plus longues? Peut-être partir plus tôt et après ça, rouvrir les écoles plus tard que prévu. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est dans vos cartons comme directeur de la santé publique?
On regarde tout ce qui est possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Non.
On regarde tout ce qui est possible. Donc, ça pourrait être un des scénarios. Il n'y a aucune des décisions de prise.
Mais en avez-vous parlé de ce scénario-là avec l'équipe ministérielle?
J'en parle avec mes experts actuellement. On est en train de regarder Noël pour être capable d'annoncer des choses actuellement. Je vous dirais qu'il n'y a rien qui a été retenu. Je n'ai rien encore présenté.
Mais ça fait partie des scénarios. Ça fait partie des scénarios.
Nous, on va regarder tout ce qui pourrait être fait, soit innovant, hein, très, très, très innovant. Regarder ce qui va se faire ailleurs dans le monde comme tel. C'est sûr que, comme notre premier ministre a bien dit, que l'éducation, c'est un élément important pour lui, que les gens avaient assez déjà manqué de l'école, mais de toute façon, on va faire l'analyse, on va faire nos recommandations et les autorités pourront prendre leurs décisions en fonction de ce qu'ils considèrent qui est le mieux pour le peuple québécois.
OK. Êtes-vous satisfait des capacités de ce qu'on appelle le traçage, retracer les gens qui ont été en contact avec des personnes qui ont reçu des tests positifs? Êtes-vous satisfait là comme directeur de la santé publique?
Très honnêtement, ça, c'est une partie qui nous appartient, puis moi, j'étais pas satisfait du tout. Je tiens à vous le dire, là, on a augmenté la capacité de façon... Dernièrement, au cours des dernières semaines, là, on a récupéré, je vous dirais, un certain retard, puis etc. Mais moi, je vais vous dire, bien honnêtement, il faut encore augmenter, puis on est dans ce processus-là, cette capacité-là de dépistage, de traçage, de recherche de contact, puis etc. Ça, il faut vraiment, parce que, vous savez...
Donc, vous n'êtes pas satisfait?
Non, actuellement, je dirais, on est dans la... Comment je pourrais vous dire? Je suis dans la bonne tendance, mais je suis pas encore satisfait. Okay. C'est-à-dire que on a réagi, on est en train d'augmenter cette capacité. On a doublé le nombre de personnes qui faisaient des enquêtes dans les directions de santé publique. Mais je voudrais encore en ajouter pour être en mesure, à mon avis, premièrement, que les gens ne travaillent pas 7 jours sur 7 et qu'ils puissent prendre du repos. Je sais pas si vous comprenez. Je préfère avoir des gens qui vont peut-être se tourner un peu les pouces pendant certaines périodes, mais d'être prêts quand ça arrive. Parce que quand ça arrive, ça nous frappe en 24-48 heures.
OK. Dernière question. Aujourd'hui, il y a la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui a fait une sortie, qui a dit que les critiques de l'opposition par rapport à la gestion du gouvernement sur la pandémie étaient irresponsables. Elle a même dit, là, je paraphrase, que ça menaçait la paix sociale. Vous les voyez comme moi, les critiques des oppositions. Est-ce que vous les trouvez responsables?
Moi, je ne rentre pas dans la... Vous allez me permettre de ne pas rentrer dans le champ politique, là. Si vous me permettez, là. Puis d'ailleurs, je tiens à vous dire que je suis très concentré sur ce que j'ai à faire dans mon travail professionnel. J'écoute un peu, mais pas trop les médias non plus, parce que je me concentre sur ce que j'ai à faire. Moi, je pense que c'est sûr que c'est plus difficile, si vous me permettez, de façon générale, c'est plus difficile maintenant parce que il y a de plus en plus d'éléments d'opposition. Et je parle pas de politique ici, de gens qui sont tannés, qui sont fatigués, etc. Mais moi, je pense que ce sur quoi je vais me concentrer, c'est de ramener une cohésion de la population québécoise à faire ce qu'on a à faire, tout en étant à l'écoute de la population québécoise qui démontre des signes de fatigue. Puis ça, c'est pas rien que chez nous, hein. C'est partout à travers le monde. Là, Le COVID-19, je ne peux pas vous imaginer jusqu'à quel point j'en ai mon...
Mais comme nous tous, hein?
Je ne peux pas vous imaginer des fois je me réveille le matin en me disant, mais c'est-tu vrai ou on est dans un cauchemar? Parce que ça vient... Puis en termes d'impact économique, je veux dire, l'économie, là, c'est important, le travail, les gens, les familles qui ont peut-être perdu plein de choses. On n'a qu'à voir là, la je sais pas d'économie, là, mais on n'a qu'à voir la fluidité là, ou la fragilité des indices boursiers, etc. Mais tout ça, c'est en train d'appauvrir les gens. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Puis dans notre société, c'est pas les plus riches qui vont, moi, dans mon cas, très honnêtement, je suis un être privilégié, mais c'est les plus pauvres encore qui vont vivre les conséquences les plus graves de ça. Les enfants, les personnes âgées, seules. Fait que ça, c'est... Fait que moi, je vous dis, là, notamment, ce qui est important, c'est de maintenir une cohésion, de ne pas utiliser la situation pour ses propres fins, ou etc. Mais ça fait partie de la vie puis de la société.
Très bien. Merci beaucoup, Dr. Arruda.
C'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite un bel automne, puis en espérant qu'on va être capable d'avoir un peu plus de socialisation, là, disons, là, et d'art, de culture et de bons restaurants.
C'est ce qu'on souhaite. Bonne soirée.
Au revoir.
Dr. Horacio Arruda, directeur national de la santé publique.